Dans le cadre de leur émission « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent 4 émissions sur Bernard Lazare et le monde protestant. Ce Nîmois, libertaire, eut une carrière nationale, voire internationale, singulière. Nous le resituerons dans son époque en parallèle avec quelques protestants qui, comme lui, participèrent à la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme. Alors que l'affaire Dreyfus déchire la France en deux, une de ses conséquences encore pérennes sera la Ligue des droits de l'homme. Nous accompagnera le groupe Color Bach, dont la musique marie avec bonheur mélodies traditionnelles juives et morceaux inspirés de Bach.
Nous avons vu que de début 1898, alors que Dreyfus et ses défenseurs Picard et Zola sont condamnés et le coupable innocenté, l'affaire a divisé les Français en deux camps. Mais elle a d'autres conséquences directes dans la constitution de la Ligue des droits de l'homme.
Déjà en 1881, le docteur franc-maçon Edmond Goupy, un ancien communard, avait créé la Société protectrice des citoyens contre les abus, avec comme premier donateur Victor Hugo et Georges Clémenceau. C'est entre deux séances du procès Zola, le 17 ou le 18 février, que le sénateur Trarieux décide, lui, de créer une ligue pour défendre les droits de l'homme. Il réunit deux jours plus tard à son domicile du quartier Monceau quelques amis républicains modérés ou radicaux-socialistes, dont Joseph Reynard et les protestants Ferdinand Buisson ou Francis de Pressensé. Déjà malade, Scheurer n'a pu venir. Il décédera en 1899. Trarieux et ses amis vont rassembler près d'un millier d'adhésions, hommes politiques, intellectuels, républicains, parmi lesquels Victor Bach ou l'Alsacien d'origine catholique Lucien Herr, bientôt chroniqueur de politique étrangère à l'Humanité avec de Pressensé. Mais aussi des universitaires, comme Émile Durkheim, qui voient dans l'antisémitisme une pathologie sociale. Mais aussi Henri Say ou les protestants Ernest Denis, Nîmois professeur à la Sorbonne, et Charles Gide, théoricien de l'école de Nîmes, tous dreyfusards et souvent pacifistes.
Une assemblée générale convoquée à Paris le 4 juin dans la salle des sociétés savantes constitue officiellement cette Ligue française pour la défense des droits de l'homme, présidée par Trarieux et rejointe maintenant par beaucoup de normaliens et plusieurs responsables d'universités populaires, dont Charles Seignobos à Paris, Auguste Fabre et Édouard Deboive à Nîmes, et probablement Bernard Lazare. Le 4 juillet, la Ligue proclame:
le condamné de 1894 n'est pas plus juif à nos yeux que tout autre à sa place ne serait catholique, protestant ou philosophe. Nous ne voyons en lui qu'un citoyen dont les droits sont les nôtres et nous repoussons, comme un recul inattendu des idées de liberté, les distinctions de secte qu'on prétendrait établir en sa personne. À partir de ce jour, toute personne dont la liberté serait menacée ou dont le droit serait violé, est assurée de trouver auprès de nous aide et assistance.
Volonté d'appliquer strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et lorsqu'en juillet, la rosette est retirée à Émile Zola, Pressensé démissionne avec éclat de l'ordre de la Légion d'honneur. Au départ, la Ligue des droits de l'homme ne s'intéresse pas aux droits sociaux, mais suite au recrutement de nombreux avocats ou professeurs de droit, radicaux ou socialistes, la Ligue disposera bientôt d'un service juridique spécialisé.
Dès le 20 août, après l'arrestation humiliante sur ordre de Cavaignac du colonel Picard, coupable d'avoir dénoncé le faux Henri, Trarieux écrit une lettre ouverte à Cavaignac, diffusée à 400 000 exemplaires, où il rappelle « Il n'y a pas de jugement réel sans défense quand on ignore ce dont on est accusé. Sans entendre, on n'a pas le droit de juger. » Après les aveux et le suicide du commandant Henri, Cavaignac démissionne le 5 septembre. De nombreuses réunions et manifestations sont organisées par les deux camps, suivies généralement de bagarres violentes.
Lazare, lui, s'est rapproché de l'écrivain britannique Israël Zangwill, l'un des premiers à militer pour la création d'un foyer national juif, et écrit dans la revue Zion de mai 1797
« Un peuple sait se défendre quand il a conscience de lui-même, et il sait défendre ceux des siens qui ont besoin d'être défendus. Que la nation juive se ressaisisse, et en elle-même, elle trouvera les forces nécessaires pour vaincre ses ennemis et conquérir ses droits. » La même année, le juif hongrois Theodor Herzl, persuadé que l'assimilation ne résoudra pas le problème parce que le monde des gentils ne le permettra pas, comme l'affaire Dreyfus l'a si clairement démontré, Herzl donc fonde l'organisation sioniste mondiale.
Toujours préoccupé de justice sociale, Lazare donne alors des conférences sur le rôle potentiel du judaïsme comme force de progrès social, se situant ainsi dans le courant d'idées du messianisme révolutionnaire juif. En 1898, il participe au deuxième congrès sioniste de Bâle, mais estime ce mouvement autocratique et bourgeois, sans parler de certains de ses membres volontiers antisémites, tels des journalistes du père Pénard.
Anarchiste, ne pouvant que s'opposer à tout nationalisme, au compromis avec les hommes d'État ou à la création d'une banque coloniale, Lazare théorise un sionisme libertaire idéal et préconise plutôt l'organisation du prolétariat juif en organisation autonome. Lutter contre l'antisémitisme équivaut pour lui à combattre l'injustice sociale. Or, étant censé mener à la raison, l'accès à la culture doit pouvoir contribuer à faire reculer l'antisémitisme populaire et ouvrier. Il finance alors plusieurs universités populaires, socialistes, syndicales et anarchistes parisiennes, avec des fonds remis par des juifs fortunés. Certains proches de Dreyfus et d'autres, tels les Rothschild, qui ont compris la nécessité pour libérer Dreyfus de forger un puissant mouvement révolutionnaire, mouvement qu'ils haïssent pourtant. S'intéresser aux masses populaires devient, pour Lazare, un impératif politique de justice et permet de démontrer que, contrairement à la propagande antisémite, tous les juifs ne sont pas des riches banquiers.
En janvier 1899, il cofonde le mensuel Le Flambeau, organe du judaïsme sioniste et social, et en mars, il rompt avec le mouvement sioniste officiel dont il désapprouve les tendances des procédés et les actes. Il écrit à Theodor Herzl :
Vous êtes des bourgeois de pensée, des bourgeois de sentiments, des bourgeois d'idées, des bourgeois de conception sociale. Si je me sépare de vous, je ne me sépare pas du peuple juif, de mon peuple de prolétaires et de gueux, et c'est là, à sa libération, que je continuerai à travailler, quoique par des voies qui ne sont pas les vôtres.
Zangwill quittera lui aussi l'organisation sioniste mondiale en 1905 pour créer l'organisation juive territorialiste dans le but de fonder un État juif refuge, mais hors de Palestine, dont il déclare qu'elle a déjà ses habitants. On sait que, soutenu par Balfour, c'est Herzl qui l'emportera.
Cependant, les antisémites ne désarment pas. En décembre 1898, face à la Ligue des droits de l'homme, Maurice Barrès fonde la Ligue de la patrie française. Pour éviter, dit-il, les divisions internes comme celles de la lutte des classes. il faut mettre en avant le culte des morts et de la terre où ils ont vécu et souffert, de la religion et de la patrie. Dès mars 1899, pour défendre la Ligue des droits de l'homme, Ludovic Trarieux doit interpeller le ministre de la Justice au sujet de l'instruction judiciaire engagée contre plusieurs membres du comité directeur de la Ligue.
Et puis le 3 juin, la Cour de cassation casse le jugement de 1894 et renvoie Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes du 7 août au 9 septembre. Cité comme témoin, Trarieux y intervient brillamment. Par contre, Bernard Lazare n'a pas été cité au procès. Et s'il couvre l'événement, il ne peut pas publier dans l'Aurore et doit envoyer ses chroniques vengeresses à deux revues américaines. The Chicago Record et The North American Review.
Le Conseil de guerre diminue la peine, mais n'en condamne pas moins Dreyfus à nouveau. Cependant, en septembre 1899, le président Loubet gracie Dreyfus pour raison de santé et en juin 1900, Waldeck-Rousseau propose une amnistie générale au nom de l'apaisement et de l'expulsion universelle. Au nom de la justice, Ludovic Trarieux s'oppose au Sénat à ces deux mesures bloquant la réhabilitation. Mais pressé de retrouver enfin Lucie et ses deux enfants, Dreyfus accepte. L'avocat Fernand Laborie, Jaurès et Clémenceau, appuyés par le colonel Picard, le lui reprochent et une rupture s'ensuivra. Tandis que Zola meurt fin 1902, les Dreyfusards continuent malgré tout le combat de la réhabilitation.
Lazare, lui, continue à sa manière son combat pour les Juifs. Le petit peuple juif d'Europe orientale devient pour lui la quintessence même du peuple. Après être allé en Roumanie où il dénonce le sort des Juifs dans l'Aurore en été 1900, il part aussi pour la Russie, pour un nouveau reportage sur les Juifs, mais n'aura pas le temps de le publier, rongé déjà par la maladie. En 1902, ému par le sort des Arméniens persécutés par les Turcs, il dénonce dans le journal de Pierre Quillard, pro-Arménia, l'hommage au sultan turc rendu par le congrès sioniste de Bâle.
Les représentants du plus vieux des peuples persécutés, ceux dont on ne peut écrire l'histoire qu'avec du sang, envoient leur salut au pire des assassins. Et dans cette assemblée, il ne se trouve personne pour dire « Vous n'avez pas le droit de déshonorer votre peuple ».
Dans ce même journal, aux côtés de Jean Jaurès, Georges Clémenceau et Anatole France, de Pressensé réclame la protection des Arméniens et des Macédoniens opprimés par la Turquie. Farouche défenseur de la paix, il appelle à la création d'un arbitrage international et présente en 1903 un projet d'État uni d'Europe. Protestant elle aussi contre les massacres turcs en Arménie et Roumanie, la Ligue des droits de l'homme soutient le peuple finlandais contre Moscou et prend position contre la guerre anglo-berbe.
Les élections de 1902 avaient vu la victoire des gauches radicales et radicales socialistes. Et dès avril 1903, Jean Jaurès, réélu, relance l'affaire que la France pensait enterrer. C'est le début d'une nouvelle révision, menée par Ludovic Trarieux et la Ligue des droits de l'homme, avec, en 1904 et 1905, différentes phases judiciaires devant la Cour de cassation.
Consulté par Charles Péguy à propos de la loi sur les associations, Bernard Lazare donne alors au cahier de la Quinzaine une véritable profession de foi qui, partant de la morale des Dreyfusards, défend la démocratie, la liberté de penser et de croire. Dans son testament du 27 juin 1903, il précisera qu'une édition de l'antisémitisme, son histoire et ses causes, peut être faite, mais on mettrait cependant en tête que sur beaucoup de points, mon opinion s'était modifiée. Resté sans enfant de son mariage avec Isabelle, Bernard Lazare restait ce solitaire qui ne cherchait pas à plaire, mais aspirait par-dessus tout à la justice, à la vérité et à la liberté sans compromis.
Péguy rapporte. En 1903, en repos à Grasse, malade, fatigué par les incessants combattants qu'il avait menés, il fut fort contrarié par la publication d'un précis de l'affaire Dreyfus préfacé par Anatole France. Rien de ce qu'il avait fait, rien de ce qu'il avait écrit n'y était. Il était mentionné que nul ne s'occupait de l'affaire sauf la famille Dreyfus. Lazare avait été tout simplement oublié par son compagnon de lutte.
À sa mort, amer, il laissera un manuscrit inédit, Le fumier de Job, où il dialogue avec lui-même à propos de l'injustice du monde et du sort du peuple juif. Venu de sphères bien différentes, mais tendues par le même idéal de justice et dignité humaine, et unis dans le même combat contre l'antisémitisme, l'anarchiste juif athée, Bernard Lazare, et le bourgeois protestant Ludovic Trarieux allait mourir à 6 mois d'intervalle, le premier le 1er septembre 1903 à 38 ans de tuberculose, le second en mars 1904. Tous deux avaient consacré leurs derniers efforts à la réhabilitation de Dreyfus, qu'ils ne devaient pas connaître puisqu'elle intervint avec celle de Picard par l'arrêt de cassation du 12 juillet 1906. Une admirable conscience s'est éteinte, notera Dreyfus dans ses carnets, à la date de la mort de Ludovic Trarieux, mais rien pour celle de Bernard Lazare.
Trarieux eut droit à de nombreux hommages. Il avait laissé la présidence de la Ligue des droits de l'homme à son ami jaurétien Francis de Pressensé, qui avec Lucien R. étaient les seuls socialistes du comité central. Pressensé déclara: Trarieux laisse deux filles immortelles. C'est d'abord l'exemple d'une vie consacrée au droit et à la liberté, ennoblie à son déclin par le sacrifice de la lutte. C'est ensuite cette Ligue des droits de l'homme qui continuera l'œuvre dont lui et nous n'auront fait que poser les fondements. Notons que de Pressensé orienta la Ligue des droits de l'homme vers un engagement pacifiste et plus social, veillant à la défense des droits des ouvriers pendant les grèves, au droit de se syndiquer, à la demande d'un droit de vote pour les femmes et au combat pour les droits des peuples opprimés, ainsi qu'à tous les problèmes posés par la colonisation. Il dira « Je pensais en collectiviste, il y a déjà bien des années, mais je n'étais pas encore convaincu de la nécessité absolue de l'action organisée, réformiste et révolutionnaire du prolétariat. Et c'est précisément cette affaire qui m'a ouvert les yeux. »
Henri Vaugeois, le fondateur de l'Action française, dénonce en lui ce fanatisme et cette frénésie qui possèdent les dévots de la Révolution française, dès lors incapable de soupçonner que l'on puisse avoir une sensibilité, une justice humaine, si l'on échappe à leur religieuse ivresse.
Par contre, les anciens camarades anarchistes de Lazare ne lui rendirent guère hommage. Jean Grave ne lui consacra que quelques lignes laconiques en guise d'oraison funèbre dans les temps nouveaux. Lazare avait souhaité d'être enterré au cimetière de Montparnasse sans cérémonie, ni fleurs, ni discours. En 1910, pourtant, Charles Péguy rendra un vibrant hommage dans Notre Jeunesse en disant « Il avait une douceur, une bonté, une tendresse mystique, une égalité d'humeur, une expérience de l'amertume et de l'ingratitude. Il vécut et mourut comme un martyr et fut un prophète. Il était donc juste qu'on l'ensevelit prématurément dans le silence et dans l'oubli. Quant à Barès, Drummond ou Maurras, ils poursuivirent de leur haine Bernard Lazare, symbole pour eux de l'anarchie juive internationaliste. »
À Nîmes, la mairie est radicale depuis 1892, mais des anti-Dreyfusards demeurent au conseil municipal et le journal du Midi, comme l'Éclair, offre un terrain favorable à l'Action française implantée à partir de 1906. Bien sûr, Fabre Gignoux avait adhéré très tôt à la Ligue des droits de l'homme et dès 1897, un an avant Zola, Gignoux imprimait de nombreux textes Dreyfusards. L'année même de la mort de Bernard Lazare, le maire Gaston Crouzet rebaptise la rue Saint-Bernard en rue Bernard Lazare. De juin 40 à août 44, Jules Massenet viendra le remplacer, sur décision du maire Hubert Rouget, fidèle alors à Pétain, bien que socialiste coopérateur. En 1908, on élève donc, par souscription et subvention de 5000 francs de l'État, le monument en hommage à Lazare dans le jardin de La Fontaine, qui est inauguré le 4 octobre par le pasteur Frédéric Desmond, vice-président du Sénat et grand maître du Grand Orient.
Évidemment, on se garda bien d'évoquer son passé d'anarchiste, ce qui n'empêcha pas pourtant une violente manifestation anti-Dreyfusarde dans les rues de Nîmes. Puis l'extrême droite s'acharna sur ce pauvre monument. Si dans les années 80, Jacques Lang en avait envisagé la reconstruction, on se limita à la pose d'une plaque sur la maison natale rue de Bernisse, puis d'une seconde dans le jardin, avec pour dédicace « Ici était dressée une effigie de Bernard Lazare, qui en des jours difficiles défendit la liberté, la justice et les droits de l'homme, méconnus et foulés aux pieds en la présence de Dreyfus ».